Dans un corps vide entrait mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la Reine Christine.
Bonjour, vous écoutez le troisième épisode de Quittérature sur Radio Campus. Aujourd'hui, nous sommes trois. Je suis Manon, médiathécaire. Il y a aussi Hélène avec nous.
Bonjour. Moi aussi, je suis médiathécaire.
Ouais, on est deux aujourd'hui. Et puis la dernière, c'est Morgane.
Moi, je suis libraire.
Voilà, donc on est toutes les trois et on va vous parler donc toujours de littérature féminine et féministe. L'idée, c'est de faire découvrir un maximum de coups de cœur, que ce soit des bandes dessinées, de la fiction, des essais, etc. Et on va commencer avec toi, Hélène, du coup, avec ton premier coup de cœur.
Alors moi, j'ai lu Blanc autour, une bande dessinée de Wilfried Lupano et Stéphane Fer, édité chez Dargaud. Wilfried Lupano, on le présente plus, c'est le scénariste, par exemple, des Vieux Fourneaux. Stéphane Fer, lui, il est dessinateur, mais aussi scénariste, et j'ai pas encore eu l'occasion de lire ses ouvrages, ce qui est malencontreux, car j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal.
Ouais, on aime plutôt ici, moi.
C'est beau. Alors, Blanc autour, c'est tiré d'une histoire vraie. Ça se passe en 1832 dans le nord des États-Unis, c'est-à-dire dans la partie où les Noirs sont libres, entre guillemets, mais n'ont aucun droit civique et sont victimes de racisme. Faut pas déconner non plus. On est quand même aux États-Unis. Pour le contexte, il est important que je précise qu'un an avant que l'histoire commence, il y avait eu une révolte très sanglante des esclaves dans le sud du pays. Révolte qui avait été menée par un certain Nat Turner, qui était un esclave qui savait lire et écrire. Et ça avait pas mal traumatisé tous les blancs du pays. Donc, revenons à notre BD. C'est l'histoire de Sarah, une jeune fille noire qui travaille comme domestique dans un pensionnat pour jeunes filles blanches. Comme elle est très curieuse et avide de savoir, elle demande à l'enseignante, qui s'appelle Prudence Crandall, d'intégrer sa classe. Contre toute attente, l'enseignante accepte et élargit même son offre à toutes les filles de couleur de 9 à 17 ans. Et là, vous vous en doutez, c'est le début des emmerdes et du combat. Évidemment, la population blanche est horrifiée. Le pensionnat devient la cible d'attaques répétées. Les parents retirent leurs enfants de l'école. Et Prudence Crandall va même être arrêtée par la police et faire de la prison. Heureusement, leur combat sera soutenu par les abolitionnistes et les lois de ségrégation scolaire seront considérées comme allant à l'encontre de la Constitution, ce qui va donc plutôt être positif au niveau légal. Malheureusement, au niveau des mentalités, ça prendra un peu plus de temps. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler la BD.
Ça alors.
Voilà, j'ai adoré cette lecture. Ça m'a fait donc penser à un album jeunesse que j'adore, qui s'appelle Ruby Tête Haute, qui est édité aux éditions des Éléphants, et qui raconte l'histoire de la première élève noire à intégrer une école réservée aux Blancs dans les années 60 en Louisiane, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Et pareil, ça avait fait un scandale pas possible. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait des avancées. Mais la pauvre, elle en avait quand même pris plein la tronche.
Yes, c'est chouette de voir Lupano sur ce genre de thématique-là. Parce que c'est quand même un auteur très prolixe qui écrit beaucoup sur beaucoup de sujets.
Oui, c'est clair.
Et là, ça fait du bien de lire aussi des BD comme ça. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé aussi, Morgane. Mais ouais. Je trouve que c'est bien de se développer aussi comme ça. Et de nous faire découvrir une thématique qu'on connaissait pas forcément d'un point de vue historique, en tout cas.
Carrément.
Il avait déjà fait une BD comme ça, un polar, Ma Révérence.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait.
En fait, il est quand même souvent engagé, c'est souvent un peu politisé. Enfin, il y avait le Saint-Jean Club Poule qui était...
Ouais, très de gauche.
Bah, les Vieux Fourneaux, voilà, on est quand même sur des anarchistes qui chantent des chansons révolutionnaires, j'adore. Mais ouais, le singe Hartepool, je sais pas si tu l'as lu, c'est trop trop bien aussi. Ouais, c'était la première que j'ai lu de lui et j'étais là, ok, donc lui je l'adore. Lui je l'aime.
Carrément. Et puis pareil, ouais, l'album Jonas qui est juste magnifique, même graphiquement, c'est une petite pépite.
Ouais. D'ailleurs, il est très grand au niveau du format et c'est un plus, on va pas se mentir.
Ok, et qu'est-ce que tu nous fais découvrir comme
en musique film, Alors, pour accompagner cette lecture, je vous propose To Be Young, Gifted and Black de Nina Simone, qui date des années 69 et qui est considérée comme un hymne des mouvements des droits civiques.
To be be young, gifted and black. Oh, what a lovely, precious dream. To be young, gifted and black. Open your heart to what I mean.
You shouldn't leave now.
In the whole must begin to tell our young. There's a world, little girl, waiting for you. Yours is the quest that's just begun.
So when you're feeling depressed, alienated, and real low, there's a great truth that you should know. For the very same thing that you gave a party on. You know, they killed her because she smoked pot. Really? They killed her. Now, of course, Lorraine is gone. Enough, 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 Lena. I feel so good. By the way, this is a black orchid given to me last night. Where were we? Jersey City? By the Black Students Council, and I preserved it until tonight so you could see it. Aye. Okay, this is the last one.
To be young, gifted and black. Oh, how I long to know the truth. There are times when I look back and I am haunted by my youth. But my joy can all be proud to say, to be young, gifted and black, hey, is where it's at, is where it's at, is where it's at.
Merci Hélène pour cette découverte. toi, Morgane, tu nous proposes quoi aujourd'hui?
Moi, j'ai choisi de vous parler de la bande dessinée de Kikuyu's, qui est parue récemment aux éditions Rue de Sèvres et qui s'appelle Les Indésirables, qui traite d'un phénomène historique qui a marqué les États-Unis mais qui a aussi été passé sous silence. Et qui a repris vie avec les décisions prises par Trump pendant son mandat et dès les premières heures de son accès au pouvoir, en fait. Il s'agit des camps de détention qui ont été mis en place dans divers États des États-Unis et qui avaient pour but d'accueillir et surtout d'enfermer toutes les personnes vivant sur le sol états-unien qui auraient des origines japonaises, quel qu'en soit le degré. Ces camps, ils ont été mis en place en 1939, après le bombardement de Pearl Harbor, et ils ont vu le jour afin d'empêcher tout espion japonais de nuire aux US directement sur leur sol. Hop, on n'a pas le temps de chercher qui est espion, on prend toutes les personnes de près ou de loin ayant des origines japonaises et on les parque.
Dis donc, ça va quand même vachement plus vite.
Tout simplement.
C'est quand même vachement plus pratique aussi que marrant, toi, la logistique, on y pense ou pas?
Voilà.
L'horreur.
Moi, si j'ai choisi cette BD, c'est parce qu'elle est en lien avec l'actualité et l'accès au pouvoir de Joe Biden. Parce qu'elle reprend un événement historique passé sous silence que je ne connaissais pas, personnellement.
Non, ouais, c'est clair. Clairement.
Et parce qu'elle est intelligemment construite par Kikuyu's, qui choisit de raconter ce pan d'histoire par le biais de l'autobiographie, en interrogeant son propre héritage transmis par ses grands-parents, alors même qu'elle ne parle pas un mot de japonais et ne connaît rien de ce qui s'est passé dans les camps. Elle choisit de commencer son histoire devant le JT avec l'ascension de Trump au pouvoir et les mesures qu'il prend à l'encontre des personnes musulmanes. Elle fait l'étrange expérience de saut dans le passé qu'elle ne contrôle pas. Et elle va ainsi nous raconter l'histoire de 3 générations de femmes, sa grand-mère, sa mère, et pour finir avec sa propre histoire, à notre époque.
Trop bien.
C'est trop bien. C'est trop beau. C'est des romans graphiques. Du coup, je voulais le mettre en lien avec une autre BD qui est parue il n'y a pas très longtemps, peut-être 6 mois, de George Takei, qui est le commandant dans Star Trek. Et ouais, dans la série.
Ok.
Et super connu mondialement. Et en fait, il raconte qu'avant d'être acteur, bah, il a été enfant. Il a été enfant d'origine japonaise. Ah. Et il a vécu une partie de son enfance dans ces mêmes camps.
Oh, truc de fou !
Voilà ! Tout ça pour ensuite conduire un vaisseau dans l'espace.
Et devenir une personnalité culte, quoi.
Ouais, non, mais c'est incroyable. Ouais. C'est des choses qu'on sait pas, quoi.
Okay.
C'est
incroyable. Du coup, tu considères que c'est de la BD documentaire, BD fiction? Comment est-ce que ça se situe, pour toi?
C'est pas de la fiction, parce qu'elle raconte vraiment ce qui s'est passé pour sa grand-mère, dans les camps, à travers des objets qu'elle a récupérés après sa mort, à travers des photos, et de ce que sa grand-mère avait transmis à sa mère, des personnes qui sont décédées dans les camps dont elle se souvient, du temps qu'elle a passé là-bas, comment elle a reconstruit sa vie après ça, comment... En fait, on leur a demandé de faire un choix aussi. À un moment, on leur a dit, si vous n'êtes pas des espions, si vous êtes des alliés, vous allez remplir un questionnaire et vous allez aller combattre au Japon en tant qu'allié américain.
Et, what the fuck.
Voilà, et à partir de là, elle reprend un peu tous ces éléments-là. Et donc, c'est réel. Elle se base vraiment en tant que personne qui a 16 ans sous les années Trump et voilà, qui prend conscience de tout ça et de son héritage à elle-même. La seule dimension fantastique, en fait, ça va être les sauts dans le temps qu'elle fait, qu'elle ne maîtrise pas.
D'accord.
Et ça donne un petit côté qui peut aussi être lu à partir de 16-17 ans, quoi.
Ouais, donc c'est un portrait de femme hyper fort, en fait, mine de rien.
Ouais, très très bien fait, très intéressant.
Et donc, du coup, oui, pardon, si vous voulez nous présenter ton son.
Je te donne ma chanson. T'es pas prête.
Un petit nez.
Alors, on poursuit avec une chanson que j'ai choisie rien que pour vous, qui s'appelle Kanashikute Yarikirenai de Kotoringo, que j'aime beaucoup, qui est issue d'un dessin animé, mais je ne sais pas lequel.
C'est que tu l'as trop. Tu l'as répété 10 fois avant de le dire ce nom. Hein,
non, d'habitude, je le chante.
Et ben, préparez-vous, c'est parti.
Muneni. Shimiru sora no kagayaki Kyō mo toku nakame Namida o nakasu Kana
Pas le nom de l'artiste.
Et toi, maintenant, tu vas nous parler de quoi ?
Oui, alors ben moi aujourd'hui, j'ai envie de parler de seins, de boobs, de poitrine. En fait, j'ai découvert un super essai, d'ailleurs grâce à toi, Morgane, avec le super fond féministe qui est présent à la librairie Bédélire. Pour
oui
faut y aller absolument parce qu'il y a un fond génial qui a été monté depuis plusieurs mois maintenant. Et où on peut retrouver beaucoup d'essais, de BD, voilà, faites par...
Et d'albums aussi.
Et d'albums aussi, ouais. Exactement, sur le thème du féminisme. Et du coup, tu m'avais fait découvrir donc, le livre de Camille Froidevaux-Métherie qui s'appelle « Saint en quête d'une libération » chez Anna Moza, qui date de l'année dernière. Donc il faut savoir quand même que cette autrice, juste, elle balance du lourd hein, parce qu'elle est philosophe féministe, professeure de sciences politiques et chargée de mission égalité à l'université de Reims, j'ai juste envie de dire bouillat. Et du coup, elle a donc fait un essai hyper intéressant. En fait, c'est à peu près 200 pages de témoignages de femmes sur leur rapport au sein. Donc on a vraiment un panel en fait de l'apparition des seins à l'enfance jusqu'au regard porté à la ménopause, avec donc du coup des portraits de femmes d'âge complètement différents. Et du coup, l'idée de montrer que le sein, la poitrine, en fait, est un peu le miroir du regard de la société sur les femmes et toutes les injonctions que cela peut apporter. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on apprend aussi que les différents mouvements féministes ont utilisé beaucoup d'images du corps féminin justement pour mettre en avant ces injonctions, mais finalement, la poitrine n'a pas été tant mise en avant que ça, à part par les fémines de manière assez extrême, hein, puisqu'on les voit effectivement souvent seins nus, et ce qui leur a d'ailleurs souvent été reproché. En ce moment, on a plus la valorisation de la vulve, du clitoris, etc. Mais dans la troisième vague féministe, finalement, on n'a pas utilisé l'image de la poitrine. Et pourtant, elle condense un peu le tout de l'expérience vécue du féminin. Ils sont pas assez petits, ils sont pas assez gros, ils sont pas assez refaits, ils sont trop refaits, etc. Donc il y a vraiment cette idée de montrer que ça rassemble toutes les injonctions possibles et imaginables, en fait, pour la femme. Je trouve que c'était une enquête vraiment super bien menée. Les témoignages sont intéressants parce que forcément éclectiques, puisque d'âge et de classe sociale complètement différentes. Et surtout, ben voilà, on rentre dans ce rapport d'intimité-là, d'autant plus que chaque témoignage est accompagné en fait d'un portrait photographique de la poitrine de la femme en question. Et du coup, voilà, juste génial parce qu'on a un bouquin qui se lit hyper bien, hyper facilement. Et en plus, bah voilà, c'est concret, on voit des poitrines de femmes complètement différentes. Et juste, ça fait du bien de voir ça, de se projeter sur autre chose aussi. La question de l'image, elle est hyper importante. Et voilà, donc on a une pluralité des formes, on a l'idée de, via ces portraits, de revendiquer quelque part et un accès à la sexualité libre et égalitaire, mais aussi lutter contre les violences sexistes, mieux connaître son corps. Enfin, voilà, on est sur des problématiques là qui sont hyper actuelles. Et j'avais envie de vous lire juste la fin, parce que je trouve que ça résume plutôt bien en fait l'ambiance du bouquin. Donc elle dit L'expérience vécue des saints déroule le fil de cette histoire de subordination, de l'exigence de saints suffisamment gros pour être attirant à la pression sociale, à l'enfantement, allaitement, en passant par l'impératif de les rendre invisibles dans l'espace public ou de les abandonner à ceux qui les malmènent et en font leur profit. Ainsi que l'écrit Robin Morgan dans Sisterhood is Powerful, nous avons appris que ces expériences féminines n'étaient pas des obsessions privées. Elles sont partagées par toutes les femmes et sont de ce fait politiques. C'est sans doute un peu désespérant de le remarquer, mais il nous faut plus que jamais reprendre le combat de ces féministes des années 70 qui s'engagèrent sur la voie de la réappropriation-libération des corps. Le temps est venu d'en déterminer avec le déni de soi et l'impératif de dissimulation. Le temps est venu d'exposer la diversité et la beauté de tous les saints. Au bout de ce long parcours, nous aurons atteint notre but lorsque nous nous serons affranchis de la centralité de nos corps dans la définition de ce que nous sommes. Débarrassés des normes genrées et des injections esthétiques, nous pourrons alors éprouver pleinement l'incarnation de nos existences dans toute sa singularité.
Voilà, il est super, il aborde plein de sujets différents, plein de personnes différentes. Et autant, enfin, je trouve que c'est intéressant de prendre des jeunes qui ont 7-8 ans et des femmes qui ont 70 ans et des femmes qui ont été malades par rapport à leur poitrine, des femmes qui ont eu des ablations de la poitrine ou qui tout simplement ont aimé leur corps toute leur vie. Et ça, je trouve ça super riche et ça donne nous-mêmes un point de vue différent sur notre corps déjà. Et je trouve que ça nous montre aussi que la société nous a un peu enfermés dans quelque chose toute notre vie,
ouais.
depuis l'adolescence, voire depuis l'enfance en fait. Pour ça, ça m'a permis d'avoir une vision très différente de mon corps.
Yes. Mais voilà, donc belle découverte chez en plus un éditeur qui valorise des sujets quand même sociétaux hyper intéressants et alternatifs, indépendants. Donc voilà.
Et qui fait des beaux livres objets.
Oui,
exactement. Incroyable fabrication.
Ouais. Complètement.
Merci à Rosa.
Sans faire de pub.
Et si moi je peux faire une pub d'un photographe tourangeau.
Ah bah,
qui travaille justement sur le corps beaucoup. Et pour lequel j'avais posé moi-même, car je vous dis tout, j'avais fait une réduction mammaire il y a quelques années, et ça m'a fait des énormes cicatrices, j'ai très mal cicatrisé, ce qui n'est pas grave du tout, car j'en suis quand même ravie, mais voilà, c'est quand même une marque sur le corps qui était quand même importante. Et lui, son travail, il est beaucoup sur ça, sur la peau, sur les corps, sur ce qui fait de nous des êtres uniques. Et donc, j'avais posé pour lui. Et du coup, il s'appelle Wolf Photographer et il a un compte Instagram où il poste énormément de photos de corps. Alors, bien sûr, censurées souvent, mais il est toujours là. Voilà, merci Instagram. Mais il est toujours là et force à lui.
C'est génial, j'irai voir. Et puis ça me fait rappeler aussi un événement qui avait eu lieu l'année dernière, je crois, si vous vous rappelez. Vous savez, une femme qui avait voulu rentrer au musée d'Orsay, je crois, qui avait un décolleté qui avait été jugé trop provoquant. Et des femmes aussi qui étaient allées dans le musée, qui s'étaient fait photographier, fesses et seins nus. Et du coup, pareil, Instagram avait censuré plusieurs fois ces photographies-là. Et se pose vraiment la question, encore une fois, de la visibilité de la poitrine. On est choqué de voir ces corps-là, quand ça ne dérange personne de voir des femmes nues vendre des voitures,
par exemple. Voilà. En permanence.
C'est ça. Donc, super. En plus, photographe tourangeau. Tour power, quoi.
D'ailleurs, Shadia Louslati a fait une bande dessinée là-dessus, récemment, qui s'appelle « Rien à perdre », et dans laquelle elle raconte... sa réduction mammaire de la même manière,
trop bien,
et très drôle. Elle raconte comment de l'adolescence elle faisait un bonnet H, je crois, un truc vraiment difficile à porter, et elle a décidé après deux ou trois grossesses de se faire réduire les seins, et elle raconte tout le processus de l'opération la sécurité sociale, tout ça, et c'est vraiment très cool.
Mais oui, c'est important d'en parler, parce qu'en fait moi j'ai attendu des années avant de faire ça, alors que j'avais une poitrine qui me saoulait, mais c'est un handicap, quoi, vraiment. Et j'ai appris que tardivement que ça pouvait être pris en charge, par exemple, et que c'était pas à moi de payer, et du coup ça remet tout en perspective, tu le fais beaucoup plus facilement. Et je regrette trop de pas avoir su ça avant, parce que en fait je l'aurais fait bien avant si j'avais su, quoi.
Yes.
Donc c'est important d'en parler, ouais.
Carrément. Et puis les bouquins comme ça, c'est fait justement pour qu'on puisse ouvrir la parole là où ça n'a pas été forcément fait jusqu'à présent. Donc Merci les filles pour ces belles découvertes.
Et vive les boobs.
Yes. Vive les boobs. À bientôt.
À bientôt.
Octobre Rose, l'occasion de rendre hommage à deux personnes que j'aime plus que tout, et je leur dis jamais, mes seins. Tribute. Quand j'étais toute petite, je voulais des seins magiques pour voir la vie en rose. Puis ils ont un peu poussé, pas en même temps, c'est vrai. Ça me fait quelques névroses. Je complexais sur ma poitrine devant des magazines qui m'en montraient des fausses. J'ai appris à vous aimer comme vous êtes, affronter les premiers 10 camions pouette-pouette. Et dès que je les aperçois tout près, je sens en moi mon cœur qui bat. Quand je marche dans la rue, abordée par un inconnu, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des wesh mademoiselle, on fait un tour. Et ça me fait pas grand chose. Même quand je porte un col roulé, ces mecs sont excités, c'est que c'est pas de votre faute. Marre qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, mes seins sont free et j'en suis fière. Je les amène au boulot, on fait un beau trio, je vois la vie en rose. Quand je regarde mon salaire, que j'en perds mes ovaires, je vois la vie en rose. 20% de thunes en moins, juste parce que j'ai des seins, je vois la vie en rose. C'est à vous mettre vraiment la haine, à vous donner l'envie de devenir féminine. Ils finiront par tomber, la loi de la gravité ne fait jamais de pause. Subissant l'effet du temps d'un bébé qui vous prend pour une pompe à lactose. Il défile pas pour Victoria's Secret, mes petits gants de toilette, jusqu'à la ménopause. Des fois, j'ai même l'impression qu'il sourit sur les clichés de mes mammographies. Mes seins chéris. Mes seins chéris.
Allez, salut, Willa.